Le retour des inégalités. Premier repère. La remontée des inégalités socio-économiques, observée à l'intérieur de la plupart des pays et régions de la planète depuis les années 1980-1990, figure parmi les évolutions structurelles les plus inquiétantes auxquelles le monde est confronté en ce début de XXIe siècle. Nous verrons également qu'il est très difficile d'envisager des solutions aux autres grands défis de notre temps, à commencer par les défis climatiques et migratoires, si l'on ne parvient pas, dans le même temps, à réduire les inégalités et à bâtir une norme de justice acceptable par le plus grand nombre. Commençons par examiner l'évolution d'un indicateur simple, à savoir la part du décile supérieur, c'est-à-dire les 10% de la population bénéficiant des revenus les plus élevés dans le revenu total dans les différentes régions du monde depuis 1980. En cas d'égalité sociale absolue, cette part devrait être égale à 10%. En cas d'inégalité absolue, elle devrait être égale à 100%. En pratique, elle est évidemment toujours comprise entre ces deux extrêmes, mais avec des variations considérables dans le temps et l'espace. On observe en particulier une tendance à la hausse dans quasiment tous les pays au cours des dernières décennies. Si l'on compare le cas de l'Inde, des États-Unis, de la Russie, de la Chine et de l'Europe, on constate ainsi que la part du décile supérieur se situait aux alentours de 25-35% du revenu total dans chacune de ces cinq régions en 1980 et qu'elle se situe autour de 35-55% en 2018. Voir graphique 0.3. Compte tenu de son ampleur, il est légitime de se demander jusqu'où ira une telle évolution. La part du décile supérieur atteindra-t-elle 55-75% du revenu total dans quelques décennies, et ainsi de suite? On notera également que l'ampleur de la hausse des inégalités varie considérablement suivant les régions, y compris pour un même niveau de développement. Les inégalités ont ainsi progressé beaucoup plus vite aux États-Unis qu'en Europe, et beaucoup plus fortement en Inde qu'en Chine. Les données détaillées indiquent également que cette hausse des inégalités s'est faite notamment aux dépens des 50% les plus pauvres, dont la part dans le revenu total se situait autour de 20-25% en 1980 dans ces cinq régions et n'est plus que de 15-20% en 2018, voire à peine plus de 10% aux États-Unis, ce qui est particulièrement inquiétant. L'Europe, telle que prise en compte ici, et dans la suite du livre, sauf précision contraire, correspond à l'Union européenne, en incluant toutefois les pays liés à l'Union européenne, comme la Suisse ou la Norvège, soit au total plus de 540 millions d'habitants. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ne sont pas incluses. Si l'on prend une perspective de plus long terme, on constate que les cinq grandes régions du monde représentées sur le graphique 0.3 ont connu entre 1950 et 1980 une phase historique relativement égalitaire, avant d'entrer dans une période de montée des inégalités depuis 1980. La phase égalitaire 1950-1980 correspond à des régimes politiques variables suivant les régions, des régimes communistes en Chine et en Russie, et des régimes que l'on peut qualifier de sociaux-démocrates en Europe, ainsi que, d'une certaine façon, aux États-Unis et en Inde, suivant des modalités fort différentes qu'il nous faudra étudier de près, mais qui avaient pour point commun de favoriser une relative égalité socio-économique. Ce qui ne veut pas dire que d'autres inégalités ne jouaient pas un rôle essentiel. Si l'on élargit la perspective à d'autres parties du monde, on constate qu'il existe des régions encore plus inégalitaires. Voir graphique 0.4. La part du décile supérieur atteint par exemple 54% du revenu total en Afrique subsaharienne, et même 65% si l'on se concentre sur l'Afrique du Sud, 56% au Brésil et 64% au Moyen-Orient, qui apparaît comme la région la plus inégalitaire du monde en 2018, quasiment à égalité avec l'Afrique du Sud, avec une part inférieure à 10% du revenu total pour les 50% les plus pauvres. Encore faut-il préciser que les estimations présentées ici pour le Moyen-Orient, ainsi d'ailleurs que pour les autres régions, doivent être considérées comme des bornes inférieures, dans la mesure où les revenus domiciliés dans les paradis fiscaux ne sont que très imparfaitement pris en compte. Le Moyen-Orient est ici défini comme la région allant de l'Égypte à l'Iran et de la Turquie à la péninsule arabique, soit environ 420 millions d'habitants. Les origines des inégalités dans ces différentes régions sont extrêmement variées. Un lourd héritage historique lié aux discriminations raciales et coloniales et à l'esclavage dans certains cas, en particulier au Brésil et en Afrique du Sud, ainsi d'ailleurs qu'aux États-Unis, aussi bien que des facteurs plus modernes liés à l'hyperconcentration des richesses pétrolières et à leur transformation en richesses financières durables dans le cas du Moyen-Orient par le truchement des marchés internationaux et d'un système légal sophistiqué. Le principal point commun entre ces différents régimes, Afrique du Sud, Brésil, Moyen-Orient, est qu'ils se situent à la frontière inégalitaire du monde contemporain, avec une part du décile supérieur autour de 55-65% du revenu total. Par ailleurs, même si les données historiques sont imparfaites, il semblerait que ces régions se soient toujours caractérisées par un niveau d'inégalité élevé. Elles n'ont jamais connu de phase égalitaire social-démocrate, et encore moins communiste. Pour résumer, on assiste à une remontée des inégalités dans quasiment toutes les régions du monde depuis 1980-1990, sauf dans celles qui n'avaient jamais cessé d'être fortement inégalitaires. D'une certaine façon, les régions qui ont connu une relative égalité entre 1950 et 1980 semblent en passe de rejoindre la frontière inégalitaire du monde, avec toutefois de larges variations entre pays. La courbe de l'éléphant. Débattre sereinement de la mondialisation. La remontée des inégalités à l'intérieur des pays depuis 1980 est un phénomène qui est maintenant bien documenté et largement reconnu comme tel. Mais le fait de s'accorder sur ce constat n'implique évidemment pas un quelconque accord sur les solutions. La question cruciale n'est pas tant le niveau de l'inégalité, mais bien plutôt son origine et son schéma de justification. Par exemple, on peut tout à fait considérer que le niveau d'inégalité monétaire était artificiellement et excessivement bas sous les régimes communistes russes et chinois en 1980, et dès lors que la remontée des écarts de revenus observée depuis les années 1980-1990 n'a rien de négatif et aurait au contraire contribué à stimuler l'innovation et la croissance pour le plus grand bénéfice de tous, y compris des plus modestes, en particulier en Chine, où la pauvreté a fortement diminué. Un tel argument est potentiellement acceptable, mais uniquement s'il est utilisé avec modération et clairvoyance, à l'issue d'un examen attentif des éléments dont nous disposons. Ainsi, on ne peut pas justifier n'importe quel accaparement privé de richesses naturelles ou d'anciennes entreprises publiques par des oligarques russes ou chinois des années 2000-2020 qui n'ont pas toujours fait preuve d'une grande capacité individuelle d'innovation, à part peut-être pour imaginer des montages légaux et fiscaux permettant de sécuriser leurs appropriations, au nom du fait que les inégalités monétaires était dans ces deux pays exagérément faible en 1980. On pourrait aussi avancer un même argument pour les cas indiens, européens et états-uniens. Le niveau d'égalité y aurait été excessif entre 1950 et 1980, et il était nécessaire d'y mettre fin au nom de l'intérêt des plus pauvres. Cet argument se heurte toutefois à des difficultés plus considérables encore que dans les cas russes et chinois, et en tout état de cause, ne peut pas permettre de justifier n'importe quelle hausse des inégalités, quelle que soit son ampleur, sans même prendre la peine de l'examiner. Par exemple, la croissance états-unienne comme la croissance européenne était plus forte au cours de la période égalitaire 1950-1980 que dans la période ultérieure, caractérisée par la hausse des inégalités, ce qui pose de sérieuses questions sur l'utilité sociale de cette dernière. L'accroissement plus important des inégalités observées depuis 1980 aux États-Unis, par comparaison à l'Europe, n'a par ailleurs guère engendré de croissance supplémentaire et en tout état de cause n'a pas bénéficié aux 50% les plus pauvres, qui ont connu une totale stagnation de leur niveau de vie absolu aux États-Unis et un effondrement de leur niveau relatif. Enfin, la plus forte hausse des inégalités observée depuis 1980 en Inde par comparaison à la Chine s'est accompagnée d'une croissance nettement plus faible, résultant en une forme de double peine pour les 50% les plus pauvres, une moins forte croissance totale et une plus faible part. Aussi fragile soit-il, ces arguments fondés sur l'idée d'une compression excessive des écarts de revenus entre 1950 et 1980 et d'un accroissement utile des inégalités depuis 1980 doivent toutefois être pris au sérieux, au moins jusqu'à un certain point, et nous les examinerons de façon approfondie dans le cadre de ce livre. Une manière particulièrement transparente et expressive de représenter la répartition de la croissance globale depuis 1980 et la complexité des évolutions en jeu consiste à relier la position dans la hiérarchie mondiale des revenus et l'ampleur de la croissance observée à ce niveau de la hiérarchie. On obtient alors ce que l'on peut appeler la courbe de l'éléphant. Voir graphique 0.5. Pour résumer, les niveaux de revenus compris entre les percentiles 60 et 90 de la répartition mondiale, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent ni aux 60% des revenus les plus bas de la planète, ni aux 10% des revenus les plus élevés, intervalle qui correspond grosso modo aux classes moyennes et populaires des pays riches, ont été largement oubliés par la croissance mondiale de la période 1980-2018, qui a en revanche fortement bénéficié aux autres groupes, placés au-dessous et au-dessus d'eux, c'est-à-dire les ménages des pays pauvres et émergents, le dos de l'éléphant en particulier entre les percentiles 20 et 40, et plus encore les ménages les plus riches des pays riches et de toute la planète, le haut de la trompe au-delà du percentile 99, c'est-à-dire les 1% des revenus les plus élevés du monde et surtout les 0,1% et 0,01% les plus élevés qui ont bénéficié d'une croissance de plusieurs centaines de pourcents. Entre 1980 et 2018, les 50% des revenus les plus bas du monde ont connu une croissance importante de leur pouvoir d'achat, entre plus 60% et plus 120%. Les 1% des revenus les plus élevés du monde ont connu une croissance encore plus forte, entre plus 80% et plus 240%. Les revenus intermédiaires ont en revanche connu une croissance plus limitée. Si la répartition mondiale des revenus était dans une situation d'équilibre, alors cette courbe de l'éléphant devrait être plate. Tous les centiles devraient progresser en moyenne au même rythme. Il y aurait toujours des riches et des pauvres, et il y aurait toujours de fortes mobilités individuelles, ascendantes ou descendantes. Mais les niveaux de revenus moyens des différents centiles progresseraient tous au même rythme. La croissance mondiale serait alors comme une marée montante tirant tous les bateaux. A rising tide that lifts all boats, pour reprendre l'expression anglo-saxonne qui avait cours dans l'après-guerre pour décrire une croissance bénéficiant dans des proportions comparables à toutes les classes de revenus. Le fait que l'on soit si éloigné d'une courbe plate montre l'ampleur des transformations en cours. Cette courbe est fondamentale, car elle permet de mieux comprendre le dialogue difficile qui caractérise parfois le débat public sur la mondialisation. Certains s'émerveillent de la réduction des inégalités et de la pauvreté mondiale que permettrait la formidable croissance des pays les moins avancés, alors que d'autres se lamentent de la hausse massive des inégalités qu'entraînerait inexorablement les excès de l'hypercapitalisme mondialisé. En réalité, l'un et l'autre discours ont chacun leur part de vérité. Les inégalités ont diminué entre le bas et le milieu de la répartition mondiale des revenus, et elles ont augmenté entre le milieu et le haut de la distribution. Ces deux aspects de la mondialisation sont tout aussi réels l'un que l'autre, et la question n'est pas de nier l'un ou l'autre, mais bien plutôt de savoir comment faire pour conserver les bons aspects de la mondialisation tout en se débarrassant des mauvais. On notera au passage l'importance du langage, des catégories et du dispositif cognitif utilisé. Si l'on décrivait les inégalités par un indicateur unique, comme le coefficient de Gini, alors on pourrait avoir l'illusion que rien ne change, précisément car l'on ne se donnerait pas les moyens de voir que les évolutions sont complexes et multidimensionnelles, et que l'on laisse plusieurs effets se mêler et se compenser au sein d'un indicateur unique. C'est pourquoi, dans ce livre, je n'aurai pas recours à ce type d'indicateur synthétique. Je prendrai toujours soin de décrire les inégalités et leur évolution en distinguant clairement les différents déciles et centiles de revenus et patrimoine concernés et par conséquent les groupes sociaux en jeu. Pour simplifier, les coefficients de Gini, qui par définition sont toujours compris entre 0, égalité absolue, et 1, inégalité absolue, montent généralement jusque vers 0,8-0,9 quand la part du décile supérieur atteint 80-90% du total et s'abaisse jusqu'à 0,1-0,2 lorsque la part du décile supérieur se réduit autour de 10-20% du total. Mais il est beaucoup plus parlant et pertinent de s'intéresser aux parts des différents groupes, les 50% les plus pauvres, les 10% les plus riches, etc. Et je recommande vivement au lecteur de raisonner de cette façon et de retenir ses ordres de grandeur plutôt que les coefficients de Gini. En l'occurrence, certains pourraient être tentés de reprocher à la courbe de l'éléphant d'accorder une importance visuelle excessive au 1% ou au 0,1% de la population mondiale qui se sont enrichis au sommet de la répartition. Plutôt que d'attiser aussi sottement l'envie et la convoitise vis-à-vis de groupes aussi minuscules, ne devrait-on pas plutôt se réjouir de la croissance observée en bas de la distribution ? En vérité, les recherches les plus récentes ont non seulement confirmé la pertinence de cette approche, mais ont même montré que la courbe de l'éléphant était encore plus marquée à son sommet que ce qui avait été initialement estimé. On constate ainsi qu'au cours de la période 1980-2018, la part de la croissance mondiale totale des revenus captés par les 1% les plus riches du monde est de 27% contre 12% pour les 50% les plus pauvres. Autrement dit, le haut de la trompe concerne certes une faible part de la population, mais s'est approprié une part pachydermique de la croissance, plus de 2 fois plus élevée que la part allant aux quelque 3,5 milliards de personnes formant la moitié la plus pauvre du monde. Cela implique par exemple qu'un modèle de croissance légèrement moins favorable au sommet de la pyramide aurait permis, et pourrait permettre à l'avenir, une réduction bien plus rapide de la pauvreté mondiale. Là encore, ce type de données peut aiguiller le débat, mais n'a pas vocation à le clore. Tout dépend de nouveau des origines des inégalités et de leur justification. La question centrale est de savoir jusqu'où il est possible de justifier la croissance du sommet au nom des multiples bienfaits apportés par les plus riches au reste de la société. Si l'on pense vraiment que la hausse des inégalités permet encore et toujours d'améliorer le revenu et les conditions de vie des 50% les plus pauvres, alors il devient possible de justifier que les 1% les plus riches concentrent 27% de la croissance mondiale, voire bien plus encore, par exemple 40%, 60% ou même 80%. L'analyse des différentes trajectoires, en particulier les comparaisons États-Unis, Europe et Inde, Chine, déjà évoquées plus haut, ne plaide guère pour ce type d'interprétation, puisque les pays où le sommet s'est enrichi le plus fortement ne sont pas ceux où les plus pauvres ont prospéré davantage. Ces comparaisons suggèrent plutôt que la part de la croissance mondiale captée par les 1% les plus riches aurait pu, et pourrait à l'avenir, être abaissée autour de 10-20%, ou moins encore, et ainsi permettre une forte hausse de la part allant aux 50% les plus pauvres. Mais ces questions sont suffisamment importantes pour mériter un examen détaillé. En tout état de cause, il paraît bien difficile, au vu de ces données, de prétendre qu'il existerait une seule façon d'organiser la mondialisation et que la part allant au 1% doit être nécessairement et précisément de 27%, contre 12% aux 50% les plus pauvres, ni plus ni moins. La mondialisation met en jeu des déformations considérables de la répartition qui ne peuvent être ignorées au motif que seule la croissance totale importerait. Le débat sur les alternatives et les choix institutionnels et politiques susceptibles d'affecter cette répartition de la croissance mondiale doit avoir lieu dans un sens ou dans un autre. De la justification de l'inégalité extrême. Nous verrons également que les plus hautes fortunes mondiales ont connu depuis les années 1980 des progressions encore plus fortes que les plus hauts revenus mondiaux représentés sur le graphique 0.5. Dans toutes les parties du monde, on constate ainsi un accroissement extrêmement rapide des plus hauts patrimoines, qu'il s'agisse des oligarques russes ou des manias mexicains, des milliardaires chinois ou des financiers indonésiens, des propriétaires saoudiens ou des fortunes états-uniennes, des industriels indiens ou des portefeuilles européens. On observe des progressions à des rythmes qui sont beaucoup plus élevés que la croissance de la taille de l'économie mondiale, de l'ordre de 3-4 fois plus rapide que la croissance mondiale au cours de la période 1980-2018. Par définition, un tel phénomène ne peut pas continuer indéfiniment, sauf à accepter l'idée que la part des milliardaires dans le total des patrimoines mondiaux tende peu à peu vers 100%, perspective difficilement défendable. Cette divergence s'est néanmoins poursuivie au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2008, quasiment à la même allure qu'au cours de la période 1990-2008, ce qui suggère que nous sommes face à une évolution structurelle de grande ampleur, dont nous n'avons peut-être pas vu le bout. Face à des évolutions aussi spectaculaires, les discours de justification de l'inégalité patrimoniale extrême oscillent souvent entre plusieurs attitudes et prennent parfois des formes étonnantes. Dans les pays occidentaux, une distinction très forte est souvent faite entre d'une part les oligarques russes, les pétromilliardaires moyen-orientaux et autres milliardaires chinois, mexicains, guinéens, indiens ou indonésiens, dont on considère souvent qu'ils ne méritent pas véritablement leur fortune, car elle aurait été obtenue par l'entremise de relations avec les pouvoirs étatiques, par exemple par l'appropriation indue de ressources naturelles ou de diverses licences, et ne serait guère utile pour la croissance. Et d'autre part, les entrepreneurs européens et états-uniens, californiens de préférence, dont il est de bon ton de chanter les louanges et les contributions infinies au bien-être mondial, et de penser qu'ils devraient être encore plus riches si la planète savait les récompenser comme ils le méritent. Peut-être même devrait-on étendre notre dette morale considérable à leur égard en une dette financière sonnante et trébuchante, ou bien en leur cédant nos droits de vote, ce qui d'ailleurs n'est pas loin d'être déjà le cas dans plusieurs pays. Un tel régime de justification des inégalités, qui se veut à la fois hyper méritocratique et occidentalo-centré, illustre bien le besoin irrépressible des sociétés humaines de donner du sens à leurs inégalités, parfois au-delà du raisonnable. De fait, ce discours de quasi-béatification de la fortune n'est pas exempt de contradictions, pour certaines abyssales. Est-on bien sûr que Bill Gates et les autres technomilliardaires auraient pu développer leurs affaires sans les centaines de milliards d'argent public investis dans la formation et la recherche fondamentale depuis des décennies? Et pense-t-on vraiment que leur pouvoir de quasi-monopole commercial et de brevetage privé de connaissances publiques aurait pu prospérer autrement qu'avec le soutien actif du système légal et fiscal en vigueur? C'est pourquoi la justification de ces inégalités extrêmes passe souvent par un discours moins grandiloquent et insistant surtout sur le besoin de stabilité patrimoniale et de protection du droit de propriété. Autrement dit, l'inégalité des fortunes n'est peut-être pas entièrement juste et pas toujours utile, surtout dans les proportions observées, y compris en Californie, mais sa remise en cause risquerait d'ouvrir une escalade sans fin, dont les plus pauvres et la société dans son ensemble finiraient par faire les frais. Cet argument propriétariste, fondé sur le besoin de stabilité sociopolitique et de sécurisation absolue, et parfois quasi religieuse, des droits de propriété acquis dans le passé, jouait déjà un rôle central pour justifier les fortes inégalités caractérisant les sociétés de propriétaires qui prospéraient en Europe et aux États-Unis au XIXe siècle et au début du XXe siècle. On retrouvera aussi cet éternel argument de la stabilité dans la justification des sociétés trifonctionnelles et esclavagistes. Il faut aussi y ajouter aujourd'hui un discours sur l'inefficacité supposée de l'État et l'agilité réputée supérieure de la philanthropie privée, argument qui jouait également un rôle lors des périodes précédentes, mais qui a pris une ampleur nouvelle à l'époque contemporaine. Ces différents discours sont légitimes et doivent être entendus jusqu'à un certain point, mais je tenterai de démontrer qu'ils peuvent être dépassés en nous fondant sur les leçons de l'histoire.